avec différents établissements et structures d'éducation populaire du quartier Mistral. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il nous fallait commencer par la première découverte de la structure. Et ouais, ça ne pouvait être que le Prunier Sauvage, vu que c'est le Prunier Sauvage qui nous accueille et avec qui on collabore sur cette semaine.
Oui, alors bienvenue.
Et merci Brahim, toi aussi, bienvenue sur la antenne de News
merci,
FM.
Merci. Donc oui, notre volonté, c'était vraiment de parler différemment du quartier Mistral, en tout cas y montrer toutes les énergies vives de ce quartier durant toute la semaine.
Toute la semaine, c'est ça. Mais c'est un peu ce sur quoi News FM s'attache à faire depuis 30 ans, effectivement un média de proximité de lien social pour montrer justement tout ce qui se passe dans le quartier et ressortir plutôt l'aspect positif, parce que c'est important aussi qu'on parle du positif et pas seulement du négatif. Brahim, du coup, le Prunier Sauvage, c'est né quand? Et c'est né pourquoi?
Le Prunier Sauvage en tant que tel aujourd'hui est né en 2012, mais il faut savoir que le projet d'avoir un espace d'expression artistique et culturelle aux abords de ce quartier populaire qui est le quartier Mistral, c'est un projet qui date de bien plus longtemps. L'association a été créée en 1992, donc il a fallu près de 20 ans de lutte acharnée pour avoir lieu d'expression.
Ce lieu de vie, oui.
C'est un lieu de vie culturelle et artistique, exactement. Mmh. Nous, on n'en parle pas comme une salle de spectacle, parce que ça n'est pas seulement une salle de spectacle. Certes, on accueille du spectacle vivant, une programmation de spectacle vivant, mais la particularité du Prunier Sauvage, c'est d'être un lieu de vie culturelle et artistique foisonnant avec de multiples activités, de multiples axes d'intervention, en tout cas éducation artistique, c'est lieu de débat aussi, c'est très important pour nous, on voulait aussi que ce lieu soit un lieu d'échange, de débat, de connaissances, voilà. Donc plus qu'une salle de spectacle, un lieu de vie culturelle et artistique.
D'accord, tu dis création de l'association, du moins naissance de l'association en 1992. Et il s'est passé quoi entre 1992 et 2012, entre le moment où en effet l'association se crée, son activité du moins, ouais, quasiment 10 ans,
ouais.
Si j'ai bien compté. Là, ça va, je suis bon en maths.
Bravo.
92, 2012.
Bravo, un peu Farid. Plus que 10 ans quand même.
Ouais.
Ça faisait 20 ans.
20 ans, pardon, excuse-moi. Bah, Greg, en plus, qui me rassure, qui me dit où tu sais.
Ah, les mecs de News FM.
Ah, ouais, non, mais c'est lundi matin, on en est qu'au deuxième café, on est hors les murs, effectivement, et du coup, je suis pas dans les clous.
Oubliez-nous avec les chiffres, oubliez-nous avec les chiffres.
20 ans. 20
ans.
Oui, c'est vrai, pardon, 20 ans.
92-2012.
C'est ça. Donc, oui, c'est un projet qui émanait d'habitants du quartier Mistral qui avaient une pratique artistique. Donc, il faut savoir que. Dans les années 70-80, il y avait énormément de musiciens dans le quartier Mistral. Il y avait une expérimentation culturelle et artistique qui était menée sur le quartier. Par exemple, à l'école, les enfants du quartier Mistral avaient 3 heures de pratique musicale et avaient un instrument qu'ils avaient à demeure, quoi. Donc il y avait une vraie dynamique qui s'était développée sur le quartier et il y avait ce besoin d'avoir un lieu d'expression. Donc les artistes du quartier, les habitants ont porté cette demande, mais malheureusement il a fallu du temps pour que ce soit compris, que ce soit accompagné politiquement.
Et donc, sur ces temps-là, vous étiez installé où?
Ici, parce que le lieu existait, mais c'était une salle polyvalente, en fait. Et puis, ça n'était pas vraiment une salle qui était considérée dans le patrimoine municipal, en fait. Hein, puisque c'est un lieu qui appartient à la ville de Grenoble, mais à un moment donné... à cette époque-là, en tout cas, dans les années 80, fin des années 80, on va dire, et les années 90, cet équipement n'était pas perçu comme faisant partie du patrimoine municipal. Donc, il était un petit peu laissé à l'abandon.
D'accord.
Et cette association s'est évertuée à le faire vivre tout de même, puisque... Même si nous n'avions pas encore le bâtiment qui, en tout cas à l'intérieur, ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, il y avait quand même une activité une activité plutôt musicale avec pas mal de musiciens de Grenoble qui sont venus répéter ici. Il y a pas mal de musiciens qui sont devenus professionnels aussi, qui ont utilisé ces locaux-là. Et je crois que Greg aussi est venu répéter ici.
Oui, oui. Jouer même. Répéter et jouer aussi sur la scène.
Répéter et jouer.
Ouais. Il y a de quoi faire ici en même temps.
Ibrahim, tu as grandi une partie, tu as grandi en partie dans le quartier Mistral en fait, en partie, puisque tu étais sur Fontaine.
Fontaine, c'était une petite parenthèse.
Qui a duré combien de temps, Fontaine ?
Je ne sais même pas, j'étais trop petit, mais en effet, j'ai passé toute ma jeunesse dans le quartier Mistral.
D'accord.
On peut dire que j'ai grandi.
Tu as grandi à Mistral, quartier. Du coup, tu as occulté Fontaine par contre.
Oui, désolé les Fontainois, on vous aime aussi, mais j'essaie de...
Ah, nous aussi on les aime, Fontaine. Nous on aime toutes les communes de l'agglomération.
Tu fais de la politique, toi.
Pas du tout. Alors, pourquoi tu dis ça? Mais c'est vrai, c'est notre agglomération. On est une radio d'agglomération. Donc, t'as grandi.
Alors,
donc...
je sais que c'est pas super bien vu hein, aujourd'hui en France ou même dans la culture de travailler dans le lieu où on a grandi, mais moi voilà, j'ai la particularité d'avoir grandi ici, mais aussi d'avoir bougé, d'avoir vu d'autres choses, et d'être... je faisais partie des bénévoles en fait qui ont porté ce projet, qui se sont battus pour qu'il y ait ce lieu d'expression artistique, parce que moi à la base je viens de l'artistique aussi, du hip-hop, de la danse urbaine. Et je faisais partie de ceux qui luttaient pour avoir cet espace, un espace
d'expression.
Et du coup, avec la force des choses, je me suis professionnalisé. J'ai passé un master de direction de projet culturel et je suis resté ici, quoi, à continuer à porter ce projet. Et puis, si je suis là depuis aussi longtemps, c'est que le projet est en mouvement. Et sans cesse en mouvement, en transformation, je n'ai pas l'impression de faire la même chose qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans.
Oui, on va découvrir tout à l'heure, effectivement, on a un petit reportage qu'on pourra diffuser qui rendra bien compte, en effet, de la vie qu'il peut y avoir au Prunier. Ta vision, parce que c'est vrai que nous, on connaît bien notre agglomération, on connaît bien Mistral aussi, mais Mistral qui souffre un peu de son image, mais plutôt pour des Parisiens, et pas seulement, j'exagère quand je dis ça. Mais du coup, toi, ta vision en fait du quartier Mistral en tant qu'ancien habitant et puis en y travaillant en fait, parce que du coup, tu es au quotidien quasiment ici.
Oui, alors c'est vrai que je connais intimement ce territoire, d'où d'ailleurs cette envie de mettre en place cette semaine des médias pour donner une autre image du quartier, mais travailler sur les représentations du quartier. Mais au-delà de ça, le Prunier Sauvage, ça n'est pas juste un équipement ou un projet de quartier. Pour nous, c'était important que ce soit aussi un lieu qui rayonne pour justement travailler sur cette perception du quartier, du territoire, et puis changer un peu les choses. C'est important d'avoir des projets rayonnants sur ce type de territoire. Et aujourd'hui... le public qui est accueilli au Prunier Sauvage, certes, c'est un public du quartier puisque nous faisons un effort particulier, nous avons un ancrage sur ce territoire, mais sur les spectacles, nous arrivons à rayonner sur toute la métropole, voire le département.
Combien de salariés dans le Prunier, du moins historiquement, du coup bénévole, du coup le premier salarié, il a été créé quand et aujourd'hui combien de salariés au sein du Prunier Sauvage et les missions de chacun?
Le premier salarié, c'était en 98.
Et c'était qui le premier salarié?
C'était un emploi jeune et c'était moi.
Ah.
Je suis passé du stade de bénévole à
emploi jeune. T'avais pas fait les précédents emplois aidés qui existaient?
Non, c'est...
Non, jamais.
Non, c'était bénévole, emploi jeune. Et
d'accord, d'accord.
À la direction, mais voilà, entre-temps, il s'est passé une professionnalisation, une formation, plein de choses. Et aujourd'hui, nous sommes l'équivalent de 4 temps pleins. Donc, mes collègues m'ont abandonné là, mais...
Le micro en direct, ça fait peur. C'est assez effrayant pour certaines personnes, en effet, donc je peux comprendre qu'elles aient disparu.
Mais voilà. Il y a Fred qui est régisseur général. Nous avons Clémence qui est chargée de toutes les actions justement avec le quartier, le territoire, ce qu'on appelle l'action et l'éducation artistique et culturelle. Et puis Elena qui est chargée d'administration et Madame Kantachi, Gemma Kantachi, qui est chargée de la propreté du lieu et que nous remercions et saluons parce qu'on a tendance souvent à oublier ce type de personnes qui sont très importantes pour la vie du lieu. Et une chose à ne pas oublier aussi, c'est la cinquantaine de bénévoles qui sont... Déjà la dizaine de bénévoles qui sont dans le conseil d'administration, qui sont des bénévoles très investis sur le projet. Et le Prunier Sauvage peut mobiliser jusqu'à une cinquantaine de bénévoles sur les événements.
Oui, parce que comme tu le disais, en fait, vous travaillez à la fois en fait, sur de l'action culturelle, mais du coup avec différents partenaires aussi sur la... Est-ce que c'est du moins... Comment du moins, je pense qu'il y a des axes, c'est transversal. Sur le travail que vous menez avec les partenaires sur le quartier ?
On travaille avec beaucoup de partenaires sur le quartier, en effet. Hein, ça va de l'école élémentaire jusqu'à la maison de l'enfance. Toutes sortes de partenaires. Et on le verra pendant toute la semaine. Tous les partenaires qui participent aux ateliers, ce sont des partenaires du Prunier Sauvage durant toute l'année. Tous ceux qu'on va inviter à ce micro et puis qui participeront aux ateliers. Et donc voilà, un vrai ancrage territorial. On essaye à chaque fois de développer cette dynamique partenariale le plus possible.
D'accord.
Alors, si vous le voulez bien, moi, ce que...
Vas-y, dis-nous. T'es chez toi, Brahim,
ouais,
tu fais comme tu veux.
Tu peux proposer des choses.
Alors... Bien évidemment.
Super, carrément.
notre second... Pardon, je me permets juste de dire, effectivement, hein, que notre second invité, en fait, hein, Edouard Comella, est arrivé directeur sportif au FC Mistral. Simplement, il va nous rejoindre dans quelques minutes autour des micros.
Nous avons voulu inviter Edouard, qui est donc éducateur sportif au FC Mistral, parce que ça nous paraît intéressant aussi de montrer toutes les dynamiques qu'il y a sur le quartier, et notamment qu'il y a des ponts à faire entre le sport et la culture. Et ma proposition.
Allez-y,
tout à fait.
Allez-y, monsieur le directeur.
Je voulais vous inviter donc à une petite balade sonore dans le Prunier Sauvage. Vous allez voir, c'est un florilège de sons qui montre la diversité de ce qu'il peut y avoir ici. Hein, l'aide à la création avec des compagnies en résidence, tout ce qui est démocratie en chantier, c'est-à-dire notre université populaire. Des choses avec les enfants, vous allez voir, c'est une petite balade sonore. Et puis je voulais dire que si les gens ont envie de réagir, peut-être qu'ils peuvent nous appeler, poser des questions. Donc ils peuvent appeler au Prunier Sauvage au 04 76 49 20 56 ou par mail à info@leprunier-sauvage.com.
Ouais, c'est vrai qu'en effet, comme on est en direct du Prunier, on n'a malheureusement pas pu déplacer le bâtiment complet et tout notre studio. Donc pas d'intervention en direct sur les ondes de News FM aujourd'hui. Non. Les seules interventions possibles se font en direct depuis les micros.
Tout à fait.
On va donc
petite balade, ouais.
Petite balade sonore.
Exactement. La petite balade donc au Prunier pour savoir un peu plus tout ce qui s'y fait, mise en situation. Merci Ibrahim de nous avoir ramené ce petit voyage sonore. On écoute ça tout de suite.
Donc je présente la compagnie Ki, qui est une compagnie qui existe depuis 3 ans, qui est vifoise. On travaille sur l'adaptation de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, pour en faire un spectacle familial.
Et donc cette semaine, on était donc toute la semaine en résidence de création au Prunier Sauvage. Et mercredi soir, on a présenté un morceau d'une quinzaine de minutes de travail en cours à des habitants du quartier, donc au club des spectateurs du Prunier Sauvage. Et voilà, c'était vraiment une très belle soirée, quoi, une chouette rencontre, de pouvoir aussi échanger après le spectacle sur ce que les spectateurs, le public a compris, sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont à interroger. Et voilà, et en fait, c'est vraiment une expérience qui est assez rare de pouvoir montrer son travail en cours, quoi. Au début, surtout là, c'est vraiment le début. Souvent, on essaye que ce soit déjà bien terminé pour présenter. Et là, on était vraiment en tout début de création et c'était vraiment chouette. C'était très convivial, vraiment chaleureux, quoi.
On mange quoi, là ? C'est quoi ?
Chouchouka, quoi. Ils appellent ça la chouchouka. C'est des poivrons bœuf sauce tomate. Moi, j'ai rajouté des patates pour... C'est de la sauce, quoi, un peu. La sauce tomate, qui est moins de sauce, ouais. C'est tout. En rajout, mais ça vient du Maghreb. Hein.
Passe, passe le vent, passe-moi l'envie comme élan, passe, méprise le vacarme qui me plombe. Passe, passe les gens, passe et dévie tout doucement, passe, méprise leurs dents.
Démocratie en chantier, le 16 mars 2018.
Bonjour. Le post-it, c'est pour vous voter ce matin et je vous donne aussi une petite phrase. C'est pour aller à la rencontre des autres qui ont le même numéro que vous.
Ça va être très participatif, là, le début de matinée. L'éducation populaire n'est pas populaire, on lève les cartons. Il y a beaucoup d'hésitation, donc c'est une question qui reste débat. Il y a du verre, on va prendre un verre, là, peut-être. Disons, pour moi, l'éducation populaire, c'est rendre la parole et les écrits compréhensibles par tous. L'éducation populaire ne sert qu'à maintenir la paix sociale. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on a au moins quelqu'un qui est d'accord ? Ben non, donc, assis. Mais vas-y, n'aie pas peur.
En tant qu'artiste, on ne nous paye que pour ça.
Quartier sud, quartier nord, tous ces trucs et on mélange tout le monde, ouais, on passe tout le monde, de sorte à ce que les enfants d'immigrés ne soient pas tous dans la même école. C'est ce qui se passe dans les trois quarts des quartiers.
On casse l'urbain, et on reconstruit de l'humain.
Ouais.
On a presque un slogan pour les...
Parce que moi, j'aime pas garder l'appareil.
Ah ouais.
Bah oui. C'est bon ?
Tout ce que je dessine là, vous verrez, là on peut voir un petit peu. Ici, voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est en beaucoup plus petit. Restez assis, sinon ceux de derrière, ils voient pas. Mais vous passerez à la fin. Vous passerez à la fin pour regarder. Voilà. Le dessin, il est fait là. Il est filmé. Il y a une caméra au-dessus, hop, il y a un fil qui l'amène jusque derrière, un vidéoprojecteur, et ça ressort en grand sur l'image. C'est pour ça que ça paraît très grand, en fait, je ne dessine pas.
Si vous n'entendez pas les autres, c'est que vous jouez fort. Et si vous n'entendez pas les autres, c'est que vous jouez seul aussi. Et ça sert à rien. Voilà. On reprend ça pour finir. Hein ? Approche-toi un peu là. Il est déjà l'heure.
Oui, mais on va une fois.
On y va. 1, 2, 3, 4.
Arrivé, j'étais avant au péage de Roussillon, je ne sais pas si vous connaissez où c'est, mais 38 550. Je suis arrivé, j'étais Voilà, j'étais dans le quartier, je ne connaissais pas bien Grenoble. Voilà, déjà la réputation du quartier m'a un peu freiné. Des gens disent, ah, tu habites à Mistral, c'est dangereux, voilà, c'est cela. Du coup, voilà, j'ai pris mes distances avec... dès que je sors de chez moi, je suis au boulot, du boulot chez moi. Voilà, en fait, je ne connaissais rien dans le quartier, mais voilà, avec le contact que j'ai eu avec Pruneau Sauvage, ça m'a permis de rencontrer quelques personnes qui habitent dans le quartier. Et puis, voilà, je suis avec l'école des enfants aussi, ça a permis d'être en contact avec les gens.
Avec les parents.
Voilà. Sinon, mais bon, là, j'apprends à connaître un peu Mistral. Il n'y a pas que bon, par ma propre expérience et puis mon observation personnelle. C'est vrai... l'étiquette est collée par rapport au passé du quartier, mais à vrai dire, on a les 80, pour moi, les 95% des personnes sont des personnes, des citoyens honnêtes, quoi. Voilà, qui sortent le matin, qui partent à leur occupation, qui reviennent, qui sont gentils, qui sont attentifs. Et,
exactement.
Voilà, mais il a fallu du temps pour moi de pouvoir constater ça.
Geste, la vie, la vie, le moindre geste, et puis la vie aussi, et tout le reste aussi.
Et voilà une jolie petite balade, une balade proposée par Brahim, justement directeur du Prunier Sauvage. Si vous reprenez l'antenne, on est en train de faire notre première prise d'antenne au Prunier Sauvage, comme toute la semaine. On vient un peu de voir voilà, tout ce qui pouvait se passer, donc des ateliers, des rencontres, des débats, de l'accompagnement musical. Brahim, tu as un mot à dire peut-être?
C'était un montage qui a été difficile parce qu'il y a tellement de choses. C'est un projet foisonnant aux multiples entrées. On a tellement de matière. J'étais parti pour vous faire une balade de 3 heures, mais.
L'émission dure qu'une heure, donc du coup, c'était pas possible.
Oui. Mais calmez-le.
Voilà, vous avez pu entendre un petit peu des artistes qui sont là au Prunier Sauvage, tels que Arash, qu'on a beaucoup accueilli, Arash Sarkeshik, un artiste grenoblois qu'on aime beaucoup au Prunier Sauvage. Il y avait Aziz Maïsour, un maître de Gemri.
Le Gemri?
Qui perpétue la tradition Gnawa, des Gnawa, et c'est une confrérie qu'on retrouve beaucoup au Maghreb, surtout au Maroc.
Le Gemri, c'est quoi?
Le Gemri est un instrument emblématique de la culture Gnawa, donc qui est une sorte de guitare basse. Hein.
D'accord.
Voilà, qu'il construit lui-même d'ailleurs. Aziz est un très bon musicien et un bon luthier aussi, puisqu'il fabrique ses instruments lui-même. Et puis voilà, nous avions des compagnies en résidence telles que la compagnie Ki, et des choses qu'on fait avec les enfants. D'ailleurs, notamment un projet phare du Prunier Sauvage qui a commencé en s'appelant l'Orchestre des Enfants, mais qui aujourd'hui s'appelle l'Académie Sauvage des Arts.
L'Académie Sauvage des Arts.
Ouais. Alors c'est une vingtaine, 27 enfants qui sont issus du secteur.
Des donc, écoles, quand tu dis secteur, non, c'est que vous travaillez,
c'est,
non?
C'est pas du tout, justement, ça n'est pas du tout dans le cadre scolaire.
Tous les sauvages? Non, je plaisante.
Oui. ce sont des enfants qui habitent essentiellement les quartiers Mistral, Lys Rouge, certains des Eaux Claires, mais pour la plupart, ils sont de Mistral, Lys Rouge. Et ils viennent ici au Prunier Sauvage, ils apprennent à jouer d'un instrument. Donc ils ont une pratique instrumentale, ils sont encadrés par des professionnels. Donc ils apprennent le saxophone, la batterie, la guitare, le piano. Voilà, toutes sortes d'instruments. Et la particularité cette année, c'est qu'ils travaillent avec la compagnie Les Veilleurs, Émilie Leroux, pour mettre en scène un spectacle qui sera joué le 19 mai au Théâtre Municipal de Grenoble. Donc on croise les doigts pour pouvoir accueillir du public. Oui, ça sera, C'est une date très importante pour nous et pour les enfants. Donc, ils vont monter sur cette belle scène du Théâtre Municipal de Grenoble le 19 mai.
D'accord. Spectacle gratuit ?
Oui.
En plus ?
Oui, oui.
D'accord. Sur invitation, j'imagine. Peut-être aussi.
Priorité aux parents.
Aux parents, bien évidemment.
Aux habitants du secteur, en tout cas. Pour nous, c'est...
C'est une première ou c'est un projet qui existait déjà auparavant ?
Alors, il existait avant, sous la forme de l'Orchestre des Enfants. Il ne faisait que de la musique. Mais c'est la première fois qu'on fait un partenariat, en effet, avec une salle comme le Théâtre Municipal de Grenoble. Et c'est la première fois que les enfants touchent aussi au théâtre. Donc, pour beaucoup d'entre eux, ça sera vraiment une première, hein, monter sur une telle scène. Et d'ailleurs, c'est une première pour beaucoup d'entre eux de faire du théâtre. Bon, ils en ont fait un petit peu à l'école, pour certains. Mais là, ils ont vraiment... Ils entrent dans un vrai processus de création parce qu'ils sont vraiment associés de A à Z sur cette création. Hein. Le thème, c'est eux qui l'ont choisi. Ils choisissent les textes.
Et c'est quoi le thème ?
Ah, je ne peux pas le dévoiler tout de suite.
Ah, d'accord. Le okay. thème. On ne peut pas le dévoiler ?
Non.
Même si on travaille comme ça, demain on vous en parle. On travaillera hors antenne le directeur.
On en parlera le 19 mai.
Le défi de la semaine.
Comme ça, vous viendrez le découvrir. Vous viendrez le découvrir le 19 mai au Théâtre Municipal de Grenoble.
Lance-toi pas un défi, Farid, pour la semaine. D'ici vendredi, il va nous le dire. D'ici le vendredi, il va nous le dire.
On va l'acheter, on va l'acheter. Vous inquiétez pas.
En tout cas, c'est une vraie fierté pour nous.
Ils ont quel âge, ces enfants ?
Ils ont en moyenne 12 ans, je pense. Mais ça va de 9 à notre plus grande à 18 ans.
Ah, d'accord. Donc primaire, collégien, lycéen, en fait.
Ouais, y a de tout. Et puis vraiment, ce qui est important, c'est que c'est sur la base du volontariat. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail pour eux. C'est un investissement aussi pour les familles. Il faut savoir aussi que nous avons investi aussi dans du matériel, puisque tous les enfants ont un instrument qu'ils peuvent sur lequel ils peuvent travailler chez eux. Donc nous avons investi dans des violons, piano, guitare.
C'est vous qui les avez qui leur avez donné?
Oui, c'est nous qui prêtons le matériel du coup. Et puis c'est un vrai investissement en temps pour les enfants, puisqu'ils viennent beaucoup de week-ends travailler ici, samedi et dimanche. Alors quand ils ont l'école, plus les cours de musique, plus le samedi, dimanche, la création, ça fait
beaucoup,
un bel investissement.
Ah ouais, un bel investissement.
C'est dur, c'est fatigant, mais là, je pense qu'ils vont être fiers d'eux quand ils seront sur scène. Ils seront valorisés de la plus belle des manières.
Bah, ce serait bien qu'on puisse en parler d'ailleurs. Je me dis que ça fera une belle émission spéciale avec les enfants, d'avoir un petit retour là-dessus aussi.
Ouais.
Et il y a un documentaire, voilà on a un vidéaste qui est en train de produire un film documentaire sur cette belle aventure. C'est Alex Lopez qui nous suit.
Merci Brahim.
Merci
Est-ce qu'on
beaucoup.
Peut quand même parler du moins, parce que c'est vrai que le Covid est toujours là, malheureusement. Il impacte beaucoup, et c'est vrai que ça fait un peu la une dans la presse. Notre ministre en fait a été atteint du Covid en fait. Rosine Bachelot, on la salue, on lui souhaite prompt rétablissement, d'ailleurs, par la même, parce que c'est aussi notre ministre de tutelle à nous, c'est pas seulement la tienne, en fait.
D'accord.
Donc l'impact du Covid sur le premier sauvage, comment
c'est à cause de Michel Sardou, non ?
C'est à cause de Michel Sardou ?
Je sais pas.
Qu'il a eu la Légion d'honneur, là.
Voilà, oui.
Ah, d'accord. Okay.
Les accolades et tout ça. Je sais pas si j'ai vu
cette cérémonie.
On leur avait dit de se méfier de Sardou.
Il y en a qui vont dire que c'est à cause des Césars, mais voilà. Vous pensez que c'est effectivement plutôt Sardou. Ouais. Très bien. Bon, peu importe, mais en attendant.
En hommage à Sardou, je pense que dans votre playlist, vous devriez faire un truc, non ?
On va faire une spéciale la semaine prochaine. Quand on sera plus au Prignon, on fera une spéciale Sardou, Brahim.
Attendez,
en attendant plus sérieusement. L'impact du Covid en fait sur votre fonctionnement, sur est-ce que vous êtes impacté, est-ce que c'est compliqué?
On est impacté.
Comment vous avez géré ça?
On est impacté dans le sens où on ne peut pas accueillir le public comme bon nombre de lieux culturels. Donc oui, c'est quelque chose d'assez triste d'avoir de ne plus avoir ce temps avec le public, ces échanges, ce temps de partage en tout cas. Cependant, nous, on a une activité qui est maintenue, puisque, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas juste une salle de spectacle. Donc, il y a tout un pan de l'activité qui continue à exister, à se mettre en œuvre, comme les résidences artistiques. On a des compagnies qui viennent ici travailler en journée pour préparer leur création. Nous avons des groupes qui viennent répéter, mais bon, tout ce beau monde-là, on a un statut professionnel en fait. Ce sont des professionnels qu'on accueille. Et puis, nous maintenons aussi les activités avec les enfants sur les cours individuels de musique. D'accord. Donc, en prenant toutes les précautions d'usage. Mais nous continuons tout de même à travailler sur des cours individuels et sur la création, en adaptant nos horaires au couvre-feu. Donc, du coup on travaille aussi en week-end.
D'accord, aussi. Les festivals, le Prunier Sauvage, on avait l'habitude chaque année de retrouver un certain nombre d'événements.
La Covid,
ils l'ont féminisé en fait.
J'arrive pas trop.
Ils l'ont féminisé au bout de 6 mois, comme vous avez vu, ça a duré longtemps. Ils se sont dit, on va l'appeler là, plutôt que le.
Alors qu'on a plus de mal à féminiser certains mots, hein, mais la maladie, là, on y arrive bien. Bon. Bref,
c'est comme les catastrophes naturelles, ça c'est pareil.
C'est un autre sujet. En tout cas, nous travaillons sur un projet qui s'appelle le Parc des Arts aussi, qui est un pôle. Nous souhaitons ici, aux abords du quartier Mistral, avoir un pôle des arts de la rue et des arts du cirque. Donc nous mettons en œuvre une préfiguration de ce projet-là depuis quelques années. Donc nous avons une activité sur l'espace public. Et nous avons ce que nous appelons les beaux jours dans le cadre de cette préfiguration. C'est à partir de juin, fin juin et tout le mois de juillet, nous allons avoir des ateliers dans le parc, dans ce magnifique parc des Champs-Élysées, mais que tous les Grenoblois appellent le parc Bachelard. Donc nous aurons
Il y a le parc des arts et le parc Bachelard.
Bon, mais nous, on va mettre tout le monde d'accord, on va l'appeler parc des arts.
Du coup, il faut le rebaptiser en fait.
Bah oui, c'est ça. C'est ce qui est prévu. Mais voilà, donc des ateliers, du spectacle vivant pendant tout le mois de juillet, à partir du 26 juin avec la fête de quartier où il y aura un superbe spectacle ici aussi, le Cirque Hirsute qui va nous proposer un très beau spectacle familial. Et donc du coup, sur tout le mois de juillet aussi, on continuera avec des ateliers et du spectacle vivant, mais je crois que ça fait 3 fois que je le dis.
Ouais, du coup, la fête de quartier, le 26 juin, la fête de quartier, tu peux nous en dire plus, du moins. C'est parce que pour moi, c'est les habitants, les associations présentes, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe durant cette...
Il y aura toute une journée d'activités autour du quartier, notamment devant le plateau, je crois. C'est en cours de construction.
D'accord.
En tout cas, avec la maison des habitants du quartier et d'autres associations.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui de faire des plans sur la comète. Mais le 26 juin, on espère en tout cas que ça va pouvoir se faire. Le beau temps devrait être là.
Donc
ça ressemble un peu à mars dernier, sauf que là on a la chance quand même cette année en fait d'avoir pu faire notre immersion média à Mistral, parce qu'on aurait dû la faire l'année dernière, cette immersion média.
C'est ça, exactement.
Et le Covid au départ est arrivé, après il y a eu la Covid. Mais en tout cas on est là cette semaine et ravis en effet d'être présent avec vous. On parlait effectivement des acteurs du quartier. Avec nous, nous avons Edouard Comella. Bonjour Edouard.
Bonjour Edouard.
Rapproche-toi du micro.
Ouais, un petit
Edouard,
peu plus près du...
Voilà, n'aie pas peur, ils ont été désinfectés. Mais la petite bombe qui est là. Voilà.
Tout va bien.
Edouard qui est éducateur sportif au FC Mistral.
C'est ça.
Ça va Edouard ?
Ça va.
Merci d'avoir répondu présent aussi rapidement. Est-ce que tu peux nous présenter, nous parler un peu du FC Mistral, Edouard ?
Bah, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette émission.
Un petit peu plus près, s'il vous plaît.
Ouais. Petite remercie, Edouard, d'être présent. On rapproche du micro, on recule pas.
Hein. On a pas trop l'habitude, c'est pour pas ça. Trop,
c'est ça, en effet. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le FC Mistral, Edouard, du coup, tu peux nous en parler.
Le FC Mistral, c'est le club du quartier qui existe depuis plus de 60 ans. Qui participent à la vie du quartier, surtout, et qui est comment dire, très important au sein du quartier, au niveau de la jeunesse. Surtout, c'est un club qui fonctionne avec que des bénévoles pratiquement. Ce qui est très important, surtout de nos jours, c'est vraiment difficile.
Combien vous avez de bénévoles en règle générale, en moyenne?
En moyenne, c'est une vingtaine de bénévoles.
Une vingtaine de bénévoles de combien d'adhérents et combien d'équipes
250 adhérents.
Waouh, bien. Ah oui.
Après, au niveau des équipes, c'est compliqué parce que chez les petits, c'est des équipes de 4, mais on a à peu près une vingtaine d'équipes, dont une équipe féminine.
D'accord, une équipe féminine.
Une équipe féminine.
C'est une équipe. Du moins, pas, moi, je suis nul en foot. Hein.
Quelle tranche d'âge pour l'équipe
16 et plus.
16 et plus. Ouais. Plus.
Donc ça correspond à junior.
Senior.
Ah, senior.
Ouais, ouais, tu féminine, vois, quand j'ai 16 ans, on peut jouer en senior.
Ouais. Il y a un truc que je ne maîtrise pas, c'est le foot. Le bobsleigh aussi, je ne maîtrise pas.
Ok, du coup, équipe féminine aussi.
Équipe féminine depuis 4 ans maintenant, ça fait.
Depuis 4 ans, avec exclusivement des jeunes filles d'ici.
Non,
de Mistral.
Pas trop de jeunes filles dans la catégorie senior.
D'accord.
On a beaucoup de jeunes filles sur les petites catégories.
Du quartier de
du quartier,
ouais, ouais.
Du quartier, sur les petites catégories, on avait beaucoup de jeunes filles. Sur les plus grandes, on a un peu plus de mal.
D'accord.
C'est beaucoup des jeunes filles qui sont beaucoup de l'extérieur, hein, qui sont pas du tout de Mistral et tout, hein,
ouais.
De Clé, de Mélan, un peu de partout. Hein,
ouais.
Et qui sont au sein du club et qui sont vraiment adaptées au club. Le mélange est super bien fait.
Ouais.
Voilà, elles sont bien adaptées, puis nous on s'est adaptés aussi et ça se passe super bien.
Ah, trop bien. Ça fait combien de temps que tu es éducateur au FC Mistral?
20 ans plus de 20 ans.
Ouais.
Ouais.
20 ans. Et tu es de Mistral aussi?
Moi, je suis un enfant de Mistral.
Enfant de Mistral.
J'y habite encore et je pense que j'y resterai jusqu'à la fin. Quoi.
D'accord, donc tu as dû voir une évolution déjà, tu as dû voir grandir plein de gens que tu as eu en tant qu'entraîneur et tout. Et tu dois avoir aussi peut-être un regard, je ne sais pas, sur ces 20 dernières années, qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce que tu observes au niveau du foot, justement, au niveau de la pratique déjà, et puis plus personnellement après, à ton niveau personnel?
Bah, au niveau du foot, au niveau du club, on a vraiment évolué, parce qu'on va dire, il y a peut-être encore 10 ans en arrière, on était à 80 licenciés, 80-90, donc on a fait un gros travail avec l'équipe de bénévoles,
ouais.
La plupart sont des gens du quartier ou même de l'extérieur, on a essayé des gens extérieurs qui sont venus nous contacter, des personnes d'un certain âge. Non, ça évolue. L'évolution, elle est. On fait pas que du sportif. On a beaucoup évolué, surtout sur la posture, le respect,
ouais.
Les valeurs, ce qui pourra leur servir plus tard dans le monde professionnel. Arriver à l'heure, respecter l'adulte, respecter le matériel, se respecter mutuellement.
Ouais, le côté collectif, voilà. Justement, avoir
exactement.
Ouais.
On est plus sur le côté éducatif.
Ouais.
Voilà, nous, la compétition, elle se fait un peu plus sur les plus grands.
D'accord.
Et sur les petits, on évite. Ils sont déjà en compétition à l'école, dehors, c'est déjà compliqué pour eux.
Ouais.
Nous, on ne les met pas en compétition au foot. Donc les portes, elles sont ouvertes à tout le monde, à n'importe qui. On a des jeunes qui ont des troubles du comportement. On a un petit qui est autiste aussi, qu'on prend quand même, qui a été refusé dans plusieurs clubs, mais que nous, on prend. Nous, tout le monde a le droit de jouer au foot à Mistral.
Ouais.
Voilà.
Ça sort du sport uniquement, quoi.
Voilà, on ça est sort carrément du sport.
Vertu éducative, vertu exactement. De partage, tout ça.
C'est ça.
Ouais. Et ben justement, cette observation, est-ce que tu as des trucs à dire sur ce qui se passait il y a 20 ans et maintenant, quand tu as commencé en étant éducateur, est-ce que tu as remarqué des changements de comportement, on va dire, sur une vingtaine d'années?
On a vu surtout une évolution des parents.
Ouais.
Il y a 10 ans en arrière, c'était très très compliqué pour nous de se déplacer sur les matchs, ou même les parents ne venaient pas au match voir leurs enfants et tout.
D'accord.
On a fait un gros travail là-dessus pour qu'ils nous accompagnent, puis surtout qu'ils accompagnent leurs enfants dans leurs loisirs, parce que ça fait toujours plaisir à un enfant de voir son papa au bord du terrain, ou sa maman, ou le tonton.
C'est fou, ouais.
Et tous les mercredis, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait, on met le café gratuit pour tous les parents, on sort les tables, les chaises. Bon, en ce moment, c'est compliqué, hein,
avec
les
oui.
restrictions sanitaires, très compliquées, mais ça donne une vie. Au FC Mistral, il fait bon vivre, on va dire. C'est un club familial, il fait bon vivre, on prend le temps. On n'est pas comme dans les grands clubs, ce qui est normal dans les grands clubs comme le GF38, c'est la compétition, c'est des clubs phares. Voilà.
Pas non, les mêmes nous, objectifs, ouais.
Voilà, c'est... nous on a d'autres objectifs que le football.
D'accord. Toi, à titre personnel, en tant qu'habitant de Mistral, on sait, on connaît l'image de l'extérieur de Mistral. Est-ce que toi, tu as une observation sur, à titre personnel, à titre citoyen? Est-ce que tu as des je sais pas, une observation sur ces 20 dernières années, des changements.
Sur ces 20 dernières années, j'ai vu mon quartier énormément changer.
Oui, parce qu'on a vu plein de bâtiments détruits, voilà. Reconstruits, ils sont tout... ouais.
C'est nous, il y a peut-être 20 ans en arrière, dans le quartier, il y avait une bibliothèque, il y avait un gymnase, il y avait le centre de loisirs, une maison pour les personnes âgées, une garderie, un centre social, et tout ça, on a tout perdu. À l'intérieur du quartier, le quartier il est vide, c'est une coquille vide.
Ouais, ouais.
Il y a plus de... Avant, il y avait beaucoup de structures, donc on voyait les acteurs sur le terrain, donc c'était différent. Donc il y avait tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui, mais c'était différent, c'était caché. Là, aujourd'hui, c'est au grand jour, c'est compliqué pour nous faire comprendre aux jeunes certaines choses quand dans le quartier est carrément vide.
Ouais.
C'est compliqué. Les structures elles sont un peu à l'extérieur du quartier. Bon, c'est bien pour faire sortir les gens, mais on a tout fait sortir du coup.
Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un peu trop.
Tu dis sortir, c'est qu'en fait le gymnase, il se situe où en fait
Le gymnase aujourd'hui se situe à côté du plateau.
D'accord.
Ok. Okay, ouais.
Alors qu'avant il était dans le quartier.
Dans le quartier même.
Ouais, dans le quartier même.
Ouais.
Toutes ces petites choses a fait qu'on a laissé un peu le quartier quoi.
Ouais.
C'est un peu vide.
Ce qui met d'autant plus ton job d'éducateur sportif encore plus au centre de l'échange et du partage, de l'écoute, de la compréhension. Je pense que on disait que c'est plus que du foot du coup, plus que la seule partie sportive. Justement, tu dois être au centre de beaucoup de discussions, de beaucoup de ressentis au niveau des jeunes, non ?
Exactement.
Ouais.
Bah, surtout moi, le fait aussi que j'habite encore sur le quartier.
Ouais.
Donc j'ai l'impression de ne pas sortir de mon travail. Quoi. Donc tous les jours, moi je suis dans le quartier, j'ai une maman qui m'interpelle, ouais. Mon fils il n'est pas rentré, il a fait ci. Voilà, ça va au-delà du football. Mais je ne me plains pas de ça, au contraire, je suis fier de ça. Ça veut dire que les gens ils ont confiance en nous. Quoi. Et nous, on essaie de faire le maximum pour les aider.
Le métier d'éducateur sportif, tu peux nous dire un peu ce que c'est, ce métier-là, et l'évolution, justement. Parce que quand on t'entend parler, effectivement, du coup, on sent bien, et on entend bien, surtout, qu'il y a une vraie évolution. Mais tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Après, le métier d'éducateur sportif, je pense qu'il est différent selon l'endroit où l'on est. Un éducateur sportif à Mistral, c'est pas la même chose qu'un éducateur sportif à Mélan ou à Cessiné, ou parce que là-bas ils s'occuperont que du foot, on va dire, c'est foot. Nous, on a les problèmes qui vont avec du quartier, le petit qui vient de l'entraînement, il ramène ses problèmes avec lui. Voilà, puis il y a des gens qui gravitent autour du club, le CODAS, des animateurs du plateau. Voilà, on fait des petits rendez-vous informels avec un jeune. Il n'a pas l'impression d'être dans un bureau de parler avec un éducateur. Il est au bord du terrain, il discute avec l'éducateur, il ne s'en rend même pas compte. C'est là qu'on arrive à avoir quelques infos, comment ça va à l'école. On est surtout fixé aussi vraiment sur l'école, sur le collège, avec les petits, parce que ce qui se passe en ce moment... Vous avez pu le voir à la télé, hein, ça fait peur. Hein, on a beaucoup de petits qui...
Ouais, on a l'impression effectivement qu'on a une jeunesse qui est à la dérive et qui est très violente. Mais est-ce que toi, tu le constates, ça Moi, j'ai toujours eu le sentiment, effectivement, qu'on extrapolait, du moins. J'ai l'impression que c'est un peu des marronniers qui reviennent régulièrement dans l'actualité, aussi, cette question des violences. Mais est-ce que toi, tu constates véritablement une violence accrue de cette jeunesse ou pas ?
Non, non, loin de là. C'est vrai qu'après, si on se fie à ce qu'on voit à la télé et tout, on sortirait pas de chez nous. Voilà. Mais faut pas nier aussi qu'il y en a.
Ah, il y en a, bien évidemment.
Voilà, il y en a. Et puis là, plus depuis la Covid.
Ouais.
Moi, j'ai pu remarquer que depuis un an, ça fait un an. J'ai remonté qu'il y a des jeunes, le fait de plus pouvoir aller au sport, de plus pouvoir pratiquer leurs loisirs. Donc... on sent l'excitation monter, ils cherchent d'autres...
D'accord, une pression qui est liée effectivement au confinement, ouais, au fait ouais, que effectivement, on est tous, en effet, hein, on parle, nous adultes, on a été confinés, du moins on est confinés, on est déconfinés, couvre-feu, aujourd'hui pour un jeune effectivement qui ne peut plus faire de sport, qui n'a plus de loisirs, la seule chose effectivement, c'est un peu comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire que, mais en tant qu'adulte, on a quand même eu la chance de vivre des choses, pour eux c'est effectivement... tu sens que c'est quelque chose de plus compliqué à vivre en fait.
Ouais, c'est très très compliqué pour eux.
Et donc l'effet qu'on ressent, c'est de la pression qui explose.
La pression qui explose, puis le fait ils se regroupent ensemble, mais comme avant ils se regroupaient, c'était pour aller jouer au foot ou pour faire une sortie ou quelque chose. Et le fait qu'il y ait moins de choses, ils se regroupent et ils cherchent des choses à faire, puis ils font des conneries comme on l'a tous fait quand on était jeunes.
Ouais.
Mais là ça commence à toucher un peu des jeunes qui n'étaient pas, qui étaient vraiment qui allaient à l'école, le foot, c'était carré. Moi je suis une génération depuis, ça fait 5 ans que je suis avec eux. J'avais fait un travail d'ailleurs avec Brahim, il était venu faire un super reportage photo sur ces jeunes-là, sur ces catégories.
Ils ont fait un article et un reportage photo sur notre petite revue culturelle qui s'appelle Quartier Chic.
Ouais, tout à fait, une jolie petite revue en effet.
Voilà, c'était cette génération-là que je suis. Et qui sont un peu aujourd'hui, un peu pas en perdition, mais perdus. Ils ont plus leurs repères. Tous leurs repères ont changé. Donc pour eux, à cet âge-là, c'est très compliqué quand on perd ses repères à cet âge-là.
D'accord. Et quand on discute avec un jeune, en effet. Ah, pardon, Marine,
vas-y, finis.
J'allais dire effectivement, comment est-ce que vous travaillez cette question? Tu citais tout à l'heure que vous travaillez avec le CODAS, il y a d'autres acteurs, le plateau, il y a
le prunier
sauvage. Est-ce qu'il y a des temps où on peut discuter, où vous arrivez à prendre le temps de discuter avec les jeunes sur ces questions-là de la patience? En fait, un peu, on nous demande tous d'être patient aujourd'hui. Est-ce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils arrivent à voir ou pas?
C'est très compliqué pour
eux. C'est très compliqué.
La patience, c'est très compliqué. Bon, on a fait beaucoup de sorties en montagne parce que c'est la seule activité qu'on pouvait faire. On a fait des sorties en montagne, mais c'est... Je pense qu'il faut vite reprendre une vie normale, presque normale, on va dire, pour que ça aille mieux pour eux.
C'est la remarque qui est faite par beaucoup de structures, en effet, qui travaillent avec des jeunes, qui disent, en fait, il faudrait qu'on leur permette de faire, qu'on vous permette de faire des choses pour effectivement renouer le lien et le dialogue avec ces jeunes, en fait.
Voilà, c'est ça. Nous, on peut plus aller faire de sport dans les gymnases. Moi, je travaillais surtout en soirée, 17h, 21h. J'avais des activités au gymnase et tout. Du coup, là, je ne les ai plus. Donc, ils ont perdu toute leur activité pratiquement. Il nous reste quoi? Le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche, pour essayer de bricoler avec eux, quoi.
Mmh. C'est en effet assez complexe quand on sait que le week-end, après, il y a aussi la vie de famille.
Aussi.
Brahim, ouais. Tu voulais dire quelque chose?
Que ce soit Edouard ou moi... à titre personnel et même professionnel, mais on s'inscrit dans le temps long, en fait. Ça fait longtemps qu'on est là, donc c'est plutôt un luxe de qu'il n'y ait pas ce turnover tout le temps et qu'on arrive à avoir ce temps de d'observation des choses. Et du coup, j'avais une question pour Edouard, c'est... du coup, oui, tu parlais de l'article que nous avions fait sur Quartier Chic, sur ton équipe. Moi, des fois, je passe dans le quartier, j'en connais aussi des gamins qu'on avait vus à ce moment-là. Et du coup, ce que j'aime, moi, en tout cas, c'est de voir grandir ces gamins et d'observer leur parcours. Je sais qu'il y a Eladji, par exemple, qui était non seulement au club de foot, mais aussi dans notre orchestre des enfants. Qui était un élément très très brillant, qui faisait aussi du violon au conservatoire.
Au conservatoire, coup, exactement.
Et qui aujourd'hui est en passe d'avoir une carrière.
Aujourd'hui, on l'a laissé partir à Cessin. C'est ce qu'on disait, le but du club, en fin de compte, c'est quand les joueurs commencent à avoir un niveau, c'est pas notre but de les garder, justement, c'est d'aller les faire évoluer ailleurs, dans les autres clubs, connaître d'autres personnes, se créer des réseaux, d'autres copains, pas toujours être l'entre-soi. Et du coup, moi je connais beaucoup de gens dans tous les clubs, que ce soit Chirol, tout, donc je contacte les entraîneurs. Je dis, j'ai un bon jeune, voilà, c'est carré. Quand j'envoie un jeune dans un club, c'est que je sais qu'il est prêt. C'est-à-dire qu'il est prêt à se déplacer tout seul, je sais qu'il sera à l'heure. Je ne vais pas envoyer pour envoyer, quoi. C'est vraiment...
Ça, c'est Eladji, c'est un exemple de réussite, ouais, puisqu'il réussissait aussi bien à l'école que dans la musique, dans le sport.
Exactement.
Donc, et du coup, des Eladji, est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'effectif
dans l'effectif qu'on a fait l'article, il y a aussi RN. Je sais pas si
oui, alors qu'est-ce qu'il devient, RN?
RN, il est au GF 38. Ah. Depuis l'année dernière, bravo. Ils l'ont sélectionné, ils l'ont pris.
Un joueur là. Assez impressionnant, ouais. Mais qu'il fallait canaliser un peu.
Exactement, que j'ai canalisé pendant 4-5 ans. On s'est beaucoup pris la tête, moi, ce petit jeune. Mais qui aujourd'hui, quand je parle avec lui, voilà, il est content, puis il est fier de où il est. Quoi. Il voulait, depuis ce petit, il a toujours voulu aller au GF38. C'était son objectif dans sa tête.
Ouais.
Et on a travaillé pour. Ça a été dur pour lui.
Ouais.
Pour moi aussi, parce que c'est un jeune et j'ai été dur avec lui pour lui faire voir vraiment que ça va être comme ça. Quoi. Et encore, moi j'étais gentil, ça va être encore pire. Le monde du football, c'est pas le monde des bisounours. Quoi.
C'est un monde qui est assez rude en fait.
Et d'ailleurs, voilà, et d'ailleurs sur ce monde du football, est-ce que toi tu sens une évolution en fait du regard que peuvent avoir les enfants sur le monde du foot? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai été inscrit aussi au club de Mistral quand j'étais petit, toi aussi. Mmh. Est-ce qu'on fait du foot pour les mêmes raisons à notre époque qu'aujourd'hui?
Non. Non.
Mais parce qu'il y a les parents peut-être derrière aussi,
ouais,
non?
Exactement. Nous, je sais pas si c'était une chance ou pas, mais nous, à notre époque, même toi, je pense, Brahim, nous, on n'avait pas nos parents derrière nous. Nous, on allait au foot, voilà, et c'était jamais au bord du terrain. On allait au foot parce qu'il fallait aller au foot. C'était la seule activité qu'on nous proposait à l'époque. Il n'y avait pas 50 000 activités, donc on était pratiquement tous au foot ou au judo.
Handball, boxe.
Voilà, donc c'est ce sport-là. Eux, il y a des parents, c'est franchement, tu viens au bord des terrains des fois, mais même chez les tout-petits, hein, c'est lunaire des fois. Il y a des parents, c'est lunaire.
Pourquoi tu penses que c'est un investissement pour eux?
Ouais. Alors d'aujourd'hui,
ils visent
pour un
objectif à long terme.
D'accord. Ouais, on va dire pour 30 à 40% des parents, c'est.
Quand on annonce, mais quand on annonce le salaire effectivement de Mbappé, du moins la semaine dernière encore, hein, c'est tombé. Quand on annonce effectivement 2 millions d'euros par mois. Ouais, y a des parents qui se prennent pour des coachs en fait. Tu vois, t'as des parents qui sont coachs et puis t'as des parents qui se prennent pour des coachs.
Exactement.
Je pense que c'est un peu ça.
Ça, c'est exactement ça.
On vise le million en fait, par mois.
Et c'est
et comment on arrive à gérer ça quand on est éducateur sportif justement?
C'est compliqué, mais faut pas. Moi je mens pas à mes jeunes. Je leur dis la vérité, même si des fois elle est un peu rude à entendre. Mais c'est mieux qu'ils l'entendent que qu'ils soient pas au courant quoi.
C'est-à-dire que, en fait, ça reste un sport, et un sport, en effet, on le pratique parce que c'est avant tout un plaisir, en fait. Mais les jeunes et les parents derrière ça qui pensent. Parce que quand on est parent, on a toujours le sentiment, pour beaucoup de parents, que notre enfant, c'est le meilleur, en fait.
Bah oui.
Parce que c'est ton enfant, et du coup, tu aspires. Et les parents, comment.
C'est pas facile à gérer.
C'est pas facile à gérer. Quand ton enfant, il est pas bon. Quand il est bon, il est bon.
Voilà, et puis même, c'est...
Ça me fait penser au sketch d'Alban Ivanov, en fait, qui dit, moi, j'étais nul. Voilà.
Mais il y en a des ligaments croisés, il y en a, ils sont nuls. Mais bon, après...
Moi, ma fille, elle est exceptionnelle.
Non, mais après, moi, comme je dis, après nous, voilà, on a cette chance-là au club de foot à Mistral, c'est qu'on n'est pas sur ce domaine-là, quoi.
D'accord.
On prévient bien les parents quand ils viennent... On n'est pas dans la compétition, les parents ils rentrent pas dans le stade, ils sont au bord, personne sur le terrain. Dès que ça va pas, on va recadrer un peu les parents pour leur dire voilà, ils sont là, surtout chez les plus jeunes. Quoi. La pression de l'école, la pression du foot, la pression, c'est pas bon.
Non, c'est pas bon, ouais, tout à fait. On est bien d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose, du moins, est-ce qu'il y a des temps forts, des événements qu'on va pouvoir retrouver du FC Mistral?
Oui,
Mistral,
les prochaines vacances, il y a les stages foot annuels du club.
D'accord, c'est quoi ces stages foot? Tu peux nous en parler un peu plus?
Alors, c'est basé sur du foot le matin, de l'aide aux devoirs sur certaines après-midi, des sorties.
Qui est-ce qui fait l'aide aux devoirs? C'est vous ou c'est
en partenariat avec le plateau.
Avec le bateau, voilà.
Les bénévoles qui font l'aide aux devoirs au plateau viennent donner un coup de main sur.
On salue d'ailleurs les collègues du plateau.
Je les salue, bien aussi, sûr. Ouais. Parce que moi, je travaille au plateau aussi.
D'accord.
Okay. Moi, je suis animateur au plateau. Donc, ça fait les jeunes, j'ai pratiquement en permanence toute la semaine avec moi, que ce soit ou au club de foot où je suis bénévole ou au plateau où je travaille.
D'accord. Et donc ça, c'est ouvert uniquement à ceux qui sont inscrits au sein du club ou est-ce que c'est...
Non,
c'est ouvert à tous.
Secteur 3, c'est ouvert à tous. Hein.
D'accord.
Il y a beaucoup de... Voilà, ce que je voulais revenir aussi sur ça, c'est au FC Mistral, Avant, on était vraiment dans...
Club de quartier.
Voilà, club de quartier. club de quartier, vraiment mistralo-mistralien et tout. Puis depuis quelques années, on s'est vraiment ouvert sur l'extérieur. On a de plus en plus de monde qui viennent de l'extérieur, hein, de partout, hein, qui étaient dans les autres clubs un peu, puis qui viennent chez nous parce qu'ils s'y sentent bien. Il n'y a pas la pression du football, il n'y a pas l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. Tout le monde est ensemble. C'est... Voilà.
C'est comme une grande famille en
quelque
sorte.
Comme une grande famille, exactement.
C'est un peu tout ce que tu me disais tout à l'heure. C'est vrai que transparaît en tout cas, en effet, cet esprit et l'ambiance qu'on a l'air de ressentir à travers tes mots. Brahim.
Alors un petit mot sur ce qui nous attend. D'abord, merci à Edouard.
Oui,
hein.
Merci à vous. Hein.
On n'a pas fini encore.
Merci.
Il nous reste quelques minutes, en effet.
Voilà. Voilà, je voulais juste revenir sur le.
Je sais bien, c'est pour ça que je revenais vers toi.
Le programme qui nous attend. Donc, cet après-midi, nous allons recevoir l'équipe de La Fève avec leur projet CAPS.
CAPS,
c'est les colocations à projet solidaire. Donc, c'est une résidence d'étudiants qui se trouve juste à côté du club de foot justement, et nous allons découvrir ce beau projet qui consiste en l'accueil de résidents étudiants qui s'impliquent aussi sur la vie du quartier.
Puis en lien avec les personnes âgées aussi, il me semble, ou pas?
Lien avec beaucoup de publics différents. D'ailleurs, ils font de l'accompagnement scolaire pour certains. C'est les étudiants qui choisissent dans quelle association, structure, projet, et puis qui initie aussi des projets. On a beaucoup de bénévoles d'ailleurs au Prunier Sauvage qui viennent de ces CAPS. Et ensuite, à 16h30, nous accueillerons l'équipe de la Maison des Habitants qui viendront nous expliquer ce qu'est une Maison des Habitants.
Tout ce qu'on y retrouve, on va écouter du son aussi d'ailleurs, extrait
des ateliers, qui
des ateliers qu'on a pu mettre en place, parce qu'on a collaboré justement avec la Maison des Habitants. Mais c'est du moins, on verra effectivement le directeur et des salariés et des bénévoles, en effet, de la Maison des Habitants. Donc ça, c'est de 16h30 à 17h30. Merci, en tout cas, Edouard, d'être venu ce matin au
News FM. Merci beaucoup,
je vous remercie.
Voilà, faut pas hésiter, après, tu sais que News FM, on fait de l'info, de l'agenda au quotidien. Donc on échangera les cartes après, tu verras.
Pas de problème.
Voilà. On est là aussi pour valoriser les acteurs du territoire. Brahim, toi, je te dis pas au revoir.
Si, au revoir, ça veut dire.
Au revoir.
Ouais, tu vas le revoir, ça veut dire. Donc tu peux le dire.
Au revoir, c'est ça. Mais pas au revoir.
Mais tu me le dis à la manière de Jacques Chirac. Giscard d'Estaing.
Je connais pas ce monsieur. On n'est pas de la même époque.
Non, mais attends. Moi, je regarde les archives télé, tout ça. Il faut se cultiver, monsieur. Ceci étant, je voulais juste donner rendez-vous à 10h aussi demain. Juste un petit mot pour parler d'un projet qui s'appelle Mistral International, qui est une création radiophonique qui avait été menée par le collectif ici même. Et ils ont travaillé sur le quartier pendant quelques mois, sur de la récolte de paroles d'habitants pour en faire un objet artistique sonore qu'on découvrira demain à 10h.
D'accord, merci en tout cas à tous les deux. Merci Grégory.
Merci Farid.
Merci Benjamin aussi, notre technicien plateau. Heureusement qu'il est là pour nous installer et sans stresser un plateau radio extérieur. On retrouvera aussi Sophia qui est avec nous, mais qui a été silencieuse ce matin pour l'agenda. Elle est en pleine préparation.
C'est ça, et on la retrouve à 11h30.
C'est ça, et on aura Émeric cet après-midi, Christophe aussi, et Sana Soumaré qui sont en train de travailler à ce qui paraît.
Carrément,
ça
bosse dur.
Merci.
Merci beaucoup, les rendez-vous sont donnés, donc restez avec nous. D'ici une petite demi-heure, Sophia nous fera son petit agenda. On sera à l'antenne pour ça, toujours en direct du Prunier Sauvage pour toute la semaine d'immersion média. Montez le son les amis sur News.